bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Merci de nous accueillir. C'est toujours pour nous une joie, malgré le trajet à faire, de venir vous rejoindre ici, même s'il y a longtemps que ce n'était pas le cas. J'aimerais ce matin partager une vérité avec vous qui colle pas trop mal avec ce que Daniel a déjà commencé à présenter. Comme titre à cette réflexion, j'ai mis « Tendez vers les réalités d'en haut ». Un sous-titre d'un article du dernier exemplaire de Christ seul dit ceci « Christ au service du monde nouveau » ou « d'un monde nouveau ». Je voudrais juste lire quelques extraits de cet article. Le Christ, qui a su emprunter le chemin de l'espérance et d'une certaine radicalité sans tomber dans le creuset de l'idéologie, reste notre meilleur guide. Toute sa vie, il s'est employé à faire bouger les lignes de force, sociales, politiques, économiques, au profit de la justice et de la paix. En arguant que les derniers seront les premiers et vice-versa, et que le plus grand est celui qui se met au service d'autrui, il pose les prémices d'un monde nouveau, au sens quasi utopique du terme, avec la promesse que notre engagement connaîtra sa pleine et entière actualisation dans l'au-delà. N'est-ce pas une utopie de dire ou de croire cela? En effet, si on pousse la réflexion à fond, ça équivaut pratiquement à dire que nous sommes, pendant notre pèlerinage ici-bas, en train de préparer ce qui va se passer dans l'au-delà. Alors si c'est effectivement le cas, il vaut vraiment la peine que nous y réfléchissions sérieusement, car l'enjeu est de taille. En quelque sorte, notre pèlerinage ici-bas pourrait être considéré comme l'apprentissage pour nous familiariser aux réalités d'en haut. Rien de moins que ça. Alors, utopie ou réalité? Je vous propose que nous fassions ensemble un bout de chemin ce matin dans cette réflexion. En effet, il y a quelque temps, j'ai été interpellé dans ce sens par la lecture du chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Et je vous propose de lire maintenant les quatre premiers versets qui définissent l'objectif que Dieu nous pose. Nous lirons la suite de ce chapitre dans le cours de ce message. Donc les versets 1 à 4. Mais vous, du moment que vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers ces réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. L'objectif ultime que Dieu nous place donc, c'est de paraître avec Christ dans la gloire. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Première question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? La Bible nous rapporte toutes sortes de situations extraordinaires, voire terribles au travers desquels nous pouvons réaliser que Dieu est un Dieu infiniment grand, puissant, sage et juste. Ces réalités-là sont un des aspects très réels de la gloire de Dieu. Les hommes qui ont eu une révélation de cet aspect-là de la gloire de Dieu ont toujours eu en même temps la, comme conséquence, conscience de leur indignité, de leur péché, de leur perdition. Souvenons-nous d'Ésaïe au chapitre 6, verset 5. « Alors j'ai dit, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Ou encore, souvenons-nous de ce qui est dit de Moïse en Hébreux 12, verset 21. Le spectacle du Sinaï en feu, la fois là, était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais ce même Moïse, qui avait vécu d'autres situations dans sa proximité avec Dieu, n'en est pas resté là. Il aspirait à mieux connaître ce Dieu. Et aussi, dit-il un jour à Dieu, en Exode 33, verset 18, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu lui répondit, « Je ferai moi-même passer devant toi, quoi donc ? Toute ma grandeur, toute ma puissance. » Non, Dieu dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi, au-delà de toutes ces manifestations tout à fait réelles, et qu'il est très important de ne pas oublier de la grandeur, de la sainteté, de la puissance de Dieu, Dieu répond à Moïse, « Ma gloire, c'est toute ma bonté. C'est ma volonté de pardonner. » Quand Christ apparaîtra dans sa gloire, il représentera évidemment la grandeur, la toute-puissance, la sainteté de Dieu, mais ce sera tout particulièrement pour manifester toute la bonté de Dieu, toute la volonté de pardon de Dieu. Donc Christ est la manifestation ultime et parfaite. Christ est la manifestation parfaite de l'amour, de la bonté, du pardon de Dieu. Et si nous serons associés à cette manifestation de la gloire de Dieu, ce sera effectivement pour manifester par notre présence et démontrer cet aspect-là de la gloire de Dieu que sont son amour et son pardon. En vertu desquels seuls, nous avons la possibilité d'être pardonnés et d'être associés à sa gloire. Voilà donc l'objectif que Dieu nous place. D'ailleurs, ou par ailleurs, il nous est dit une chose intéressante à propos de ce Moïse en Hébreux 11. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car il estimait que subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. On pourrait aussi dire, il avait les yeux fixés sur la gloire à venir. Alors qu'a-t-il fait pour cela? Il a renoncé à la gloire terrestre et au péché. Et ce sont ces mêmes réalités qui nous sont rapportées dans notre lecture de Colossiens. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui sont sur la terre. Et plus loin, au verset 5, il dit « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. » Ce sont cette même action que celle qu'a faite Moïse. Ainsi, bien avant que l'apôtre Paul ait écrit l'épître aux Colossiens, Moïse avait déjà compris et vécu ces choses. Mais même après les avoir comprises, était-il obligé de les vivre? Non. Mais il nous a dit qu'il a choisi cette voie. Il a choisi. C'était également le cas pour l'apôtre Paul, qui a choisi de considérer toute chose, celle qui appartient à la terre, comme une perte à cause de ce bien suprême qu'est la connaissance de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3:3. C'était leur choix, leur libre choix. Et quand notre passage ce matin nous dit au verset 2 que de toute notre pensée nous devons tendre vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, il nous place, nous aussi, devant ce même choix. Aussi, il est important de réaliser pour quel objectif nous décidons de faire ce choix. Pour Moïse, comme pour Paul, c'était de participer à la manifestation de la gloire de Christ, qui, comme nous l'avons déjà dit, est celle de la manifestation de l'amour parfait de Dieu et de son pardon, qui englobe aussi notre réconciliation avec Dieu. Et c'est ce même objectif-là, nous l'avons lu, qui nous est placé, qui nous est proposé à nous aussi. Voyons maintenant de quelle manière nous pouvons atteindre cet objectif. Pour cela, nous devons reprendre notre texte au début, où nous lisons « Du moment que vous êtes ressuscité avec Christ », verset 1. Selon les traductions, c'est un tout petit peu différent, mais d'autres disent « Vous êtes ressuscité avec Christ ». Là, cette traduction-là l'exprime d'une façon plus expressive, du moment que vous êtes ressuscité avec Christ. Voilà donc le point névralgique. Mais pour pouvoir ressusciter, il faut auparavant être mort. Et par rapport à quoi s'agit-il d'être mort ? Les versets 5, 8 et 9 le disent expressément. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Verset 8, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insulte, ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres. Alors, nous n'allons pas passer en revue toutes ces choses, mais nous laisser interpeller de manière à vouloir mourir à ces choses. C'est-à-dire, comme le dit notre texte, de nous dépouiller de l'homme que nous étions autrefois. Et, alors là, la perspective de quelque chose de nouveau est nous revêtir de l'homme nouveau. encore une fois, il s'agit là d'actions qui dépendent entièrement de notre choix. Personne ne nous oblige à agir ainsi. Mais si nous choisissons de le faire, c'est parce que nous réalisons bien que c'est de cette façon-là que nous pourrons parvenir à cet objectif que Dieu nous a placé. Ainsi, de même que nous avons énuméré sans les commenter la liste de ceux dont nous sommes appelés à nous dépouiller, voyons maintenant de quoi nous sommes encouragés à nous revêtir. Et prenons pour cela les versets 12 à 17 de ce chapitre 3. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur aussi vous a pardonné. Pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. On en a déjà entendu parler de l'amour ce matin. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Le chant de François d'Assise, fait de nous des ouvriers de paix, est une belle concrétisation de ces réalités-là. Alors, suite à cette énumération des qualités que nous sommes invités à mettre en œuvre lorsque nous revêtons l'homme nouveau, je voudrais en venir maintenant à ce dont j'ai parlé au début, ces réalités d'en haut. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Ce petit verset nous aide à comprendre ce que sont ces réalités d'en haut. Alors, s'il nous paraît tout à fait évident que la première liste, celle dont nous sommes appelés à nous débarrasser, correspond effectivement à ces réalités qui appartiennent à la terre, on peut logiquement en déduire que sa deuxième liste, celle dont nous sommes appelés à nous revêtir, correspond à ces réalités d'en haut. C'est-à-dire que ces réalités-là, que ce sont ces réalités-là qui sont celles du royaume de Dieu où Christ est assis à la droite du Père. Or, ce verset 2 nous dit de tendre de toute notre pensée vers ces réalités-là, ou comme le disent d'autres traductions, de nous affectionner à ces réalités-là. Précisément parce que ce sont ces réalités d'en haut. Nous sommes donc appelés, pendant notre pèlerinage ici-bas, à apprendre à nous habituer à vivre selon la manière de vivre qui est celle de l'au-delà. N'avions-nous pas lu ceci dans cet article de Christel? Christ pose les prémices d'un monde nouveau avec la promesse que notre engagement connaîtra sa pleine et entière actualisation dans l'au-delà. Notre pèlerinage ici-bas, au-delà d'être pour nous l'occasion d'accéder par grâce, par le moyen de la foi au salut, et donc aussi, peut-être même avant tout, l'occasion pour nous de nous affectionner aux réalités d'en haut et à vivre en conséquence. Nous n'allons pas maintenant reprendre chacune de ces qualités que Paul cite dans cette liste, mais on peut en quelque sorte dire qu'un seul mot les concentre ou les contient toutes. Je pense que vous avez compris, c'est le mot aimer ou amour. D'ailleurs, le verset 14 place cette qualité-là au-dessus de toutes les autres en disant « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Souvenons-nous aussi de ce qui est dit en 1 Corinthiens 13 à propos de l'amour. L'amour ne meurt jamais ou ne disparaît jamais. Ça veut dire qu'il restera pour toujours. Dans l'au-delà, l'amour sera là. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne meurt jamais. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. L'amour, vécu selon l'énumération qui en est faite dans ces versets de Colossiens 3, est donc cette vertu qui transcende tout jusque dans la vie éternelle. L'amour, ce lien par excellence, est donc la base de la manière de vivre dans le royaume des cieux. Ainsi, en nous proposant dès ici-bas, de vivre de cette manière, Dieu, qui nous a choisis pour faire partie du peuple saint et qui nous aime, nous offre en même temps la possibilité de nous affectionner et de tendre vers les réalités d'en haut, c'est-à-dire celles de son royaume. La manière de vivre que Dieu nous propose est donc à la fois une manière de vivre ensemble ici-bas et un apprentissage pour la manière de vivre dans l'au-delà. Mais notre texte comporte encore un autre aspect de ce qui implique que de vivre ensemble en tendant vers ces réalités d'en haut, dès ici-bas. Au verset 9 à 11, « Car vous vous êtes dépouillé de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance, selon la traduction du Semeur. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers et barbares, hommes libres ou esclaves. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout en tous. » Et je vous propose de compléter cela par un passage de Éphésiens 3, au verset 15 et 16. « Il voulait ainsi » Intéressant de lire cela, d'entendre cela. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait ainsi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Très intéressant ces deux passages. Tout d'abord, nous réalisons que le processus de se dépouiller de l'homme que nous étions autrefois et de nous revêtir de l'homme nouveau est un processus qui ne s'arrête pas. Une autre traduction dit qui se renouvelle sans cesse. C'est un processus qui commence le jour où nous donnons notre vie à Christ et qui se poursuit tout au long de notre vie. C'est un processus d'apprentissage de ce que sera notre vie dans l'au-delà. On peut illustrer ceci par l'action du vigneron qui ne cesse de tailler sa vigne. Nous nous souvenons que nous sommes les sarments, que Christ est le cep et que Dieu est le vigneron. Ce vigneron ne cesse de tailler sa vigne tout au long de la vie de celle-ci, car, et nous en sommes bien conscients, je pense, les sauvageons ne cessent de repousser. Mais, sur la base du fait que ce processus est en cours dans nos vies, il nous est dit que cela a comme conséquence que nous reflétons l'image de notre Créateur, celui qui est en train de tailler cette vigne. Comme pour la taille de la vigne, à force que le vigneron y intervient, elle ressemble de plus en plus à ce que celui-ci souhaite qu'elle soit. À force qu'il y taille, elle ressemble de plus en plus à ce que le vigneron souhaite qu'elle soit. Souvenons-nous qu'être l'image de notre Créateur, c'est à cela que le Créateur avait destiné l'être humain au moment de la création. Ce processus est donc un rétablissement de l'ordre initial, tel que nous le dit par exemple le livre des Actes au chapitre 3, verset 21, où il est question du rétablissement de toutes choses. Alors que 2 Corinthiens 5, 17 ajoute ainsi, « Si quelqu'un est en Christ, il appartient à une nouvelle création. » Remarquons le terme qui revient très souvent, c'est « nouveau » et renouvelé. Accueillir Christ dans notre vie, nous appelons ça la nouvelle naissance. Se dépouiller de l'homme que nous étions autrefois et revêtir l'homme nouveau, la Bible nous dit que c'est une nouvelle création. Nous avons vu que les réalités de ce processus qui est en cours dans notre vie, par lequel l'homme nouveau se renouvelle sans cesse. Par ce processus de renouvellement, nous entrons dans le dessein créateur de Dieu pour l'être humain, comme nous l'avons dit, notamment de refléter son image. Et finalement, comme ce processus s'adresse à tous ceux qui ont accueilli Christ dans leur vie, qu'ils soient juifs ou non, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres, hommes femmes, cela aboutit à une nouvelle et seule humanité voulue par Dieu, qui les a tous réconciliés avec lui-même par la mort du Christ en croix. Quel programme ! Face à ce programme, ne serait-ce peut-être pas le moment de nous analyser justement à l'aune de ce programme pour voir si nous-mêmes nous sommes en harmonie avec ce que Dieu a prévu pour nous. Tout d'abord, posons-nous la question : quel est notre objectif en tant qu'enfant de Dieu ? Est-ce que nous voulons vivre de la manière que Dieu nous propose afin d'être prêts quand le Seigneur reviendra? Il y a du bon là-dedans. Est-ce que nous voulons vivre de la manière que Dieu nous propose afin d'être accueillis dans son royaume? Pourquoi pas? Est-ce que nous voulons vivre de la manière que Dieu nous propose afin de faire valoir les talents que Dieu nous a donnés? Voilà un objectif tout à fait louable. Mais reprenons les objectifs que Dieu nous fixe, tels que nous les avons rencontrés dans notre texte. Être ou refléter l'image de notre Créateur. Unir les siens en un seul corps pour former une seule et nouvelle humanité. Paraître avec lui dans la gloire en magnifiant sa bonté, manifestée en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Car il n'y a plus que Christ, lui, qui est tout en tous. Alors si nous analysons nos objectifs, nous réalisons qu'ils tournent plus ou moins autour de nous-mêmes. Mais si nous examinons bien quels sont les objectifs fixés par Dieu, nous réalisons qu'au-delà de ce que Dieu nous accorde dans sa grâce, l'objectif essentiel concerne le projet de Dieu et la gloire de Christ. La gloire de Christ qui est tout en tous. Pour conclure, j'aimerais encore relever une très courte, mais à mon avis très importante, recommandation que nous rencontrons également dans notre texte, au verset 15. C'est très court. Soyez reconnaissants. Et si nous lisons le texte, nous remarquons que cette pensée revient plusieurs fois. Alors c'est vrai. Les uns et les autres, nous aurions bien des raisons de nous plaindre. Mais déposons avec confiance ces situations parfois bienfaisantes entre ses mains. Car Jésus lui-même nous y invite à le faire. Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous, qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. » D'autres passages nous y invite également, comme 1 Pierre verset 5, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ou en Philippiens 4, « En toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Vous avez sans doute remarqué que chaque fois, une promesse est associée à ces prières. Je vous donnerai le repos, il prend soin de vous. Et dans ce passage bien connu de Philippiens, il ajoute tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, quels sont nos motifs de reconnaissance? Il y en a de très concrets. Si nous sommes ici ce matin, c'est que nous avons pu nous lever. Nous avons aussi pu satisfaire notre faim si nous avions pris la précaution d'avoir du pain à la maison. Et je vous laisse le soin de vous-même compléter cette liste en considérant que tout cela, ce sont des bienfaits que notre Dieu, de notre Dieu, que ce chant bien connu nous appelle à compter pour que nous sachions nous en rendre compte. Et par ailleurs, nous sommes également au bénéfice de tant de bienfaits spirituels, tels que nous les avons passés en revue ce matin. Je viens de dire que nous avons des sujets de reconnaissance très concrets quand j'ai cité des faits de notre vécu de tous les jours. Mais après tout, lesquels sont les plus concrets, ou du moins ceux dont la portée est la plus durable? Pouvons-nous faire nôtre ces paroles de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, verset 18? Nous ne portons pas notre attention sur ces choses visibles, ces réalités concrètes, ces bienfaits concrets de tous les jours, mais sur les réalités encore invisibles, ces réalités d'en haut. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles durent éternellement. Alors c'est vrai que même si nous sommes bien conscients que ces réalités qui meublent notre quotidien sont appelées à disparaître, nous ne sommes peut-être pas encore arrivés au stade de l'apôtre Paul, où nous pouvons dire que nous ne considérons pas ces réalités-là. Donc soyons très reconnaissants pour ces réalités concrètes de tous les jours, mais elles ne doivent pas nous faire oublier toutes celles dont nous bénéficions déjà ici-bas, même si nous ne pouvons pas les toucher du doigt, et pour lesquelles nous voulons être reconnaissants. Alors, pour conclure, vraiment, essayons d'en énumérer quelques-unes de ces réalités pour lesquelles nous avons toutes les bonnes raisons d'être reconnaissants. Avoir eu l'occasion d'avoir accès à l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui nous présente un grand Dieu, juste, saint, amour, miséricorde et bon. Cet évangile qui nous dit que ce Dieu si grand n'a pas tiré un trait sur l'humanité pécheresse, révoltée, déchue, mais qu'il a tant aimé ses créatures qu'il a lui-même payé le prix de notre rançon au travers de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que ce Dieu si grand a fait de ceux qui acceptent son message ses enfants et les a réunis tous en une nouvelle humanité, quelles que soient leurs différences. Que cette nouvelle humanité, concrétisée par l'Église, il nous enseigne que de quelle manière vivre cette humanité et par laquelle nous pourrons réaliser notre destin d'être humain, notamment celle de refléter l'image de notre Créateur. Et je citerai pour terminer ce fait dont nous avons parlé ce matin, à savoir que tout en nous enseignant à vivre pendant notre pèlerinage ici-bas d'une manière qui honore notre Dieu et Père, ce Dieu et Père nous donne l'occasion de nous familiariser, de nous affectionner aux réalités d'en haut, celles de son royaume, ou en d'autres mots, d'apprendre la manière de vivre qui est celle de l'au-delà. Nous avons commencé notre réflexion en citant cette phrase de Christ seul. Il pose les prémices d'un monde nouveau avec la promesse que notre engagement connaîtra sa pleine et entière actualisation dans l'au-delà. Et nous avions posé la question, utopie ou réalité concrète? Je vous laisse y répondre vous-même. Mais si nous croyons que ce n'est pas une utopie, alors il vaut sans doute la peine de tendre de toute notre pensée, de toute notre force vers ces réalités-là que Dieu nous vienne en aide pour cela.